émission L'écran radiophonique vous présente un scénario original de Jean-Pierre Junier. Erebos. Mise en scène, production, Jean-Pierre Junier. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. famille d'affaires ? Elle lui répond, non. D'une façon évasive, il la trouve terriblement nerveuse et semble avoir peur. Il demande, avez-vous peur d'avoir la peste ? Elle lui fait, hein ? Et quoi ? Il voit que il y a quelque chose, mais il ne sait pas quoi. Quelque chose qui la chagrine, la rend nerveuse. Elle est extrêmement nerveuse. Une fois qu'il est examiné, il lui dit qu'elle doit se reposer et qu'elle doit voir très peu de monde. Il est allé le dire à Albert comment il a trouvé sa mère et lui dit « Je la trouve nerveuse, quelque chose ne va pas. Il faudrait c'est qu'elle puisse se reposer dans une maison. Elle a une excitation, mais qui doit être passagère. » Albert lui demande « Faut-il la mettre sous tutelle ?» Rambert lui dit « Je ne peux pas vous dire, et puis c'est la préfecture qui décidera de ça. Pour moi, je ne peux pas. Son cerveau marche bien, malgré tout. » Elle se remet petit à petit. Rambert, sous l'ordre d'Albert, ouvre un dossier pour une demande de tutelle. Il le fait, mais en se disant que le service de tutelle refusera de la mettre sous tutelle. Le service des dossiers pour les tutelles et qui prend des décisions voit le dossier de Jeanne. Ils en parlent entre eux et à leur responsable qui est un homme dans les 30 ans, blond, élégant, costume marine. Son bureau se trouve à la préfecture. Il reçoit sa commission de tutelle. Il se dit « C'est très délicat. C'est la famille Forvigny, la plus grande fortune de France. Et en plus, j'ai des actions dans leur affaire. Je sais aussi que le fils ne m'aime pas parce que j'essaie de flirter avec sa femme. Alors il décide de se venger du fils qui doit vouloir la fortune de sa mère. Il dit, il faut garder, il faut demander à d'autres médecins d'examiner John Forvigny. Il choisit lui-même les médecins et leur demande de la trouver normale. C'est ce qui se passe. Le dossier du docteur Rambert est annulé, donc pas de sous-tutelle. D'après l'avis du médecin, du service de tutelle. Et puis, il est marqué sur la conclusion du dossier que Madame Jeanne Forvigny a eu plusieurs fois la demande de tutelle, que ça a été refusé par tous les médecins qu'elle a vus, ce qui veut dire que cette conclusion est la conclusion de plusieurs examens et demandes. Albert est furieux. Il se demande comment il pourrait faire pour sortir des griffes de David, sa mère. Regrette même Adrien, en se disant qu'au moins ça ne sortait pas de la famille, qu'Adrien était un peu simplet, mais avec du doigté, il en aurait fait ce qu'il voulait. Mais l'autre, il décide c'est de faire une enquête sur ce David Zibouman. Il va voir un détective privé que sa mère est allée voir pour rechercher Adrien, lui dit ce qu'il décide et ce qu'il désire. Le détective se frotte les mains. Après une longue et très très longue enquête sur les gens qui l'ont connu enfant, le côté mondain, gigolo, etc., il a rencontré aussi ses anciennes maîtresses, comment il se comportait avec elles. Il a appris aussi que les hommes qui s'occupent de ses affaires, que David a des difficultés et a des déductions d'impôts très importantes. Mais surtout, que la principale ressource des affaires de David provient de Jeanne Forvigny, qu'il a créé une société factice et dit à Madame Jeanne Forvigny que c'était comme si elle mettait l'argent dans un paradis fiscal. C'est lui qui lui dit ce qu'il fallait acheter au nom de la société et qu'il fallait donner pour éviter les impôts, qu'il fallait donner en argent liquide. En réalité, tout ce qu'elle a acheté officiellement, c'est la société qui l'a acheté et que la société est exclusivement à David, qu'elle croit être propriétaire, mais n'a rien. Une fois que l'enquête a été finie, il explique ça à Albert furieux. Albert se dit que peut-être les impôts pourraient fouiller dans les comptes de ce misérable qui ne fait rien et qui fait des affaires. Il en parle au ministre des Finances. Le ministre des Finances, qui est Guillaume Ringuet, un jeune homme dans les 50 ans, de taille moyenne, les cheveux qui ont été blonds, le regard rêveur, parce que monsieur écrit des vers et tient un journal. Il porte un costume, trois pièces marine. Il le reçoit dans son bureau, qui est un bureau moderne avec baies vitrées. Rambert lui explique son affaire. Guillaume le laisse parler, puis lui dit « Donc ta mère s'est laissée rouler par un gigolo. Je n'aurais jamais pensé de ça d'elle. Elle qui avait l'air si sérieuse. Franchement, elle cachait bien son jeu. » Albert lui dit « Elle a été toujours très sérieuse et elle est toujours très sérieuse. Je crois que c'est le retour d'âge. En tout cas, il faut la sortir des griffes de cet aventurier et voir ses affaires à lui, parce que c'est vraiment louche. Je suis sûr qu'il ne doit pas payer d'impôts. » Il lui dit, nous permettons de l'appeler simplement Guillaume, le ministre des Finances, mais étant donné qu'ils sont tous deux très amis intimes, donc nous permettons de le faire. Et puis, moi aussi, je suis très intime avec lui. Bien, je te promets de faire cette enquête. Bien entendu, de façon très discrète à cause de ta famille. Je ne veux pas que les choses s'ébruitent. Et puis cela risquerait peut-être de faire un scandale. L'opposition peut profiter de cette histoire pour nous mettre les bâtons dans les roues. En ce moment, nous avons suffisamment de gros problèmes à traiter. L'hygiène, la santé, le chômage et en plus cette histoire climatique. C'est pire que si nous étions en guerre. Je vais m'occuper de ça. Je ne sais pas en tout cas combien de temps ça va prendre. Albert lui dit, je te remercie. Et Albert le quitte satisfait. Donc le ministre fait une enquête très discrète sur ce David Zibouman. Les enquêteurs apprennent que ce monsieur n'a pas une vraie profession et officiellement il n'y a pas de fortune. Il vit dans un petit studio modeste dont il paie le loyer avec le peu d'argent de l'héritage de ses parents. Comme fortune apparente, il a deux voitures de sport et de beaux vêtements. On ne peut rien lui reprocher là-dessus et de sa société fiscale, en réalité, ne se trouve pas en France mais à Andorre. C'est une principauté, la France ne peut rien faire. Et en France, il n'est pas interdit de ne pas travailler et les déclarations d'impôts sont honnêtes puisqu'officiellement en France, il n'a rien. Guillaume convoque Albert et dit le résultat de son enquête. Albert lui montre les sommes que lui a données sa mère et au nom de cette société financière qui n'est pas en France. Le ministre des Finances lui dit « Oui, mais nous ne pouvons rien. Que voulez-vous, mon ami? Votre mère a donné cet argent à une société qui ne se trouve pas en France. Remarquez, elle a aussi, étant donné que sa fortune avait diminué, puisqu'elle avait donné tout cet argent, ses impôts ont diminué. Donc, elle aussi n'est pas très claire vis-à-vis de l'État français. Albert, démoralisé, lui demande « Alors que faut-il faire ?» Guillaume lui dit « Je peux essayer de faire une demande au service des fraudes internationales et Interpol pour voir ce que c'est que cette société. » Albert lui dit « Oui, faites-le, peut-être nous trouverons quelque chose pour le prendre. » Que ma mère soit débarrassée de lui. Guillaume lui dit, quant à votre mère, faut qu'elle n'ait plus de relation avec lui. Là, malheureusement, on ne peut rien faire. C'est à elle de décider. C'est à elle à comprendre qu'il n'en veut qu'à son argent. Ou plutôt, qu'il n'en voulait qu'à son argent. Parce que s'il s'aperçoit que l'on fait une enquête sur ses affaires, il va certainement arrêter tout ça. Donc, le ministre des Finances françaises demande l'enquête internationale pour les fraudes et Interpol. L'enquête est faite assez rapidement. On se rend compte que c'est une boîte aux lettres, mais que c'est très difficile de savoir à qui elle appartient. John est dans sa chambre, elle est en train de s'habiller. On a frappé à la porte. Entrez! Entre la bonne, qui lui dit, Madame, il y a un monsieur qui désire vous voir. John, irrité, lui dit, mais il est quelle heure? La bonne lui dit, 9 heures, madame. Oui, 9 heures, madame. Jean soupire et demande, quel est ce monsieur et que veut-il? La bonne lui dit, c'est en quelque sorte un policier, madame, et il désirait vous poser quelques questions. Jean soupire, elle est surprise et est énervée et lui dit, bien. Venez-le au salon et dites-lui que je ne suis pas encore habillé, mais que je vais le rejoindre le plus vite possible. La bonne lui dit, bien, madame. Elle sort. Jean continue à s'habiller en se demandant ce que lui veut ce policier. Elle pense à Adrien. Et se dit qu'on l'a peut-être trouvée. Elle est très émue. On lui ramène son petit Adrien. Ce policier le ramène parce qu'il a peut-être fait des bêtises ou qu'il n'a pas voulu dire qui il était. Alors le policier fait une enquête pour savoir si c'est bien lui. Toute heureuse, elle va aller rejoindre le policier au salon. Lorsqu'elle ouvre la porte, elle voit debout un homme dans les 30 ans, grand, mince, blond, le visage sympathique, habillé d'un costume gris. Elle lui dit, en allant vers lui, « Monsieur, je m'excuse de vous avoir fait attendre, mais il est bientôt. » L'inspecteur ou le commissaire lui dit, « C'est pas beaucoup attendu, madame. Et puis il est vrai qu'il est tôt, pardonnez-moi. Mais j'ai quelque chose d'urgent à vous demander. » Elle s'approche de lui avec le sourire et lui dit, en lui montrant un fauteuil, « Asseyez-vous, monsieur, je vous en prie. » Il va s'asseoir. Elle va s'asseoir en face de lui. Elle lui dit, « Je vous écoute, monsieur. » Il lui dit, « Voilà, madame, c'est au sujet de toutes ces sommes que vous avez données à la société qui appartient à monsieur David Zibouman. Elle est triste parce qu'elle s'attendait tellement à avoir des nouvelles d'Adrien. Non, c'est encore à cause de ce David Zibouman. Elle se dit qu'elle va certainement avoir des ennuis à cause de ce David. Cela l'irrite et dit à l'inspecteur, « Il n'est pas interdit de faire des affaires, monsieur. D'ailleurs, je connais très bien le ministre des Finances et il a des actions chez moi. » L'inspecteur, le commissaire, lui dit, « Mais nous ne... » Nous ne comprenons pas, madame, vous mettez de l'argent liquide dans cette entreprise financière et cet argent sert à faire des affaires sous un autre nom. Vous voyez, nous ne comprenons pas ce genre de choses. Et en plus, l'argent liquide est sur le registre de cette société et votre nom n'y apparaît pas. Il y a juste le nom de David Zibouman, ce qui fait que tout cet argent officiellement lui appartient et tout ce qu'il fait avec cet argent est à lui. Et en plus, ce sont des sommes très importantes que vous avez mis. Savez-vous seulement que l'argent que vous mettez dans cette société, qui n'est pas en France, n'a pas été mis à votre nom, mais au nom de David Zibouman? Elle lui dit, je suis incapable de m'occuper de mes affaires et c'est normal qu'une personne s'en occupe à ma place. Il lui dit, c'est très bien, mais cette personne prend cet argent et s'en occupe comme si c'était à lui. Et puis, vous avez mis votre argent dans un paradis fiscal, en le sachant ou le sachant pas. L'argent que vous avez mis ont servi pour des achats qui ont été faits, immobiliers et autres, mais pas à votre nom. Le saviez-vous? Elle lui dit, je ne sais pas, je ne m'occupe pas de ça. J'ai été informé que dans cette société, la femme du Premier ministre a fait comme moi. En réalité, pour éviter d'avoir des ennuis, David, avant que John mette l'argent à l'agence, il a proposé ses services de l'agence à la femme du Premier ministre qui recherchait quelque chose pour fructifier son argent. Comme ça, il a pu démontrer à John que c'était du sérieux. Il lui a dit, « Tu te rends compte, la femme du Premier ministre, elle aussi, et puis ça nous protège. » Personne n'oserait, aux impôts, faire une enquête profonde sur une société où la femme du Premier ministre a fait des affaires. Le commissaire ou l'inspecteur lui dit, oui, mais la femme du Premier ministre a eu, en échange de sa somme, un manoir en Écosse. Tandis que vous avez versé 10 milliards en espèces et n'avez rien eu. En plus, la femme du Premier ministre a mis de l'argent qui a été versé en son nom, tandis que vous, votre argent est au nom de David Zibouman. Il y a nuance, madame. Elle lui dit, cela ne vous regarde pas, monsieur. Et si ça me fait plaisir de mettre de l'argent dans une société comme ça, ce n'est pas interdit, surtout que cet argent, je l'ai donné. Ce n'est pas de l'argent volé non plus. Elle est furieuse et lui dit, « Voilà, monsieur, vous savez tout, je vous ai tout dit. Pardonnez-moi, mais je dois aller chez mon coiffeur ce matin, j'ai à me préparer. » Il se lève furieux, mais pense qu'il ne peut rien savoir de plus. Donc, il la quitte. Rapport à Guillaume, qui voit que la femme du Premier ministre a une affaire avec cette société bidon. Alors ils n'osent pas aller de l'avant de peur que cela fasse des vagues, un scandale, etc. Ce dossier lui brûle des doigts. Il décide de le déposer dans son coffre et de dire au directeur de son service des impôts qu'il faut oublier ce dossier. Il lui dit, vous comprenez, c'est notre carrière qui est en jeu. Si on apprend que la femme du Premier ministre a de l'argent dans une société bidon et en plus qui se trouve dans un paradis fiscal, ça va créer de gros problèmes avec l'opposition, la presse, etc. Le directeur lui demande, et que diriez-vous à Monsieur Forvigny? Il lui répond, pour le moment, c'est la mère qui dirige ses affaires et le ministre des Finances. Guillaume Ringuet convoque Albert à son bureau et lui dit, nous avons fini notre enquête. Nous n'avons rien reproché à M. David Zibouman. Albert Furieux lui dit, c'est impossible. Il a beau protester, rien n'y fait. Le ministre reste impassible. Furieux, il quitte le bureau. Pendant ce temps, Cyril travaille toujours bien à la clinique et dort toujours dans le local à linge sale. En travaillant, il voit constamment son camarade qui pousse les brancards, ça lui fait du bien. Le brancardier est sympathique, s'appelle Nicolas. Ils mangent tous les deux à 10h30 après la distribution des repas aux malades dans le couloir assis sur des chaises. Nicolas dit à Cyril, on ne donne pas assez ici, j'en ai marre. Cyril lui dit, moi j'étais à la rue, je n'avais rien. Alors je suis tout de même satisfait de ce que j'ai. Bien entendu, j'aimerais gagner un peu plus, mais ça va. Et puis, on a à manger. Nicolas lui dit, tu te contentes de peu, mais si toi tu avais à payer une chambre et une copine, là, tu verrais que la vie est très dure. Cyril lui dit, tu as sans doute raison. Nicolas lui dit, en tout cas, je crois avoir trouvé un truc pour me faire du fric. Cyril demande, et quoi? Nicolas lui dit, on peut trouver des choses à vendre. Cyril lui dit, moi en tout cas, je sais que je n'ai qu'un seau et rien d'autre. Nicolas lui dit, oui, mais peut-être dans la clinique, il y a des choses à prendre. Cyril, pour savoir, demande, et quoi? Nicolas fait celui qui réfléchit, lui dit, je ne sais pas moi, mais je sais qu'ils ont des produits comme de la drogue, et là ça se vend très cher en ville. Cyril lui dit, ça moi je n'y connais rien, et puis tu sais, c'est très bien que c'est des produits, des médicaments, et que les médicaments sont mis sous clé. Nicolas ou ses épaules lui dit, ça on peut se débrouiller. Il suffit de faucher la clé pour une heure ou deux. Cyril lui demande, et qui a la clé? Nicolas lui dit, les infirmières-chefs. Cyril lui dit, mais toi, tu n'es pas infirmière-chef, donc tu n'as pas la clé. Nicolas lui dit, ça peut se trouver. Il suffit, je ne sais pas moi, peut-être de séduire l'une d'elles et lui prendre pour une heure ou deux. Après le lui rendre. Tu vois, c'est simple. On se sert dans le local et ensuite on rend les clés. Puis on va vendre ce que l'on a pris en ville. C'est simple pour vendre, il suffit tout simplement de demander aux passants. Et je t'assure qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent ces produits. Ils sont prêts à payer une fortune. Tu penses à l'époque où l'on vit, les gens ont besoin de sortir de ce monde. Cyril lui dit, ma foi. Nicolas lui demande, tu ne serais pas prêt pour prendre des produits et les cacher quelque part, ensuite aller vendre dehors? Cyril lui dit, comme ça, sans réfléchir, pourquoi pas? Il a dit comme ça, sans réfléchir. Et en plus te dit que l'autre a parlé comme ça aussi. Ils se séparent, Nicolas et lui. Cyril reprend son balai et continue son travail en n'y pensant plus. Lendemain matin, il n'y pense plus et commence sa journée comme d'habitude. Mais, en fin de matinée, il voit courir à lui dans le couloir Nicolas, qui lui crie « Arrête ! Arrête !» Cyril, curieux, s'arrête une fois que l'autre est près de lui. « Ça y est, j'ai la clé !» Cyril ne comprend pas. Il a complètement oublié la chose. Nicolas sort de sa poche une clé et lui dit « Viens avec moi, on prend ton chariot, ça nous permettra de mettre des choses dedans. » Car le chariot de Cyril a un compartiment fermé. Et Cyril le suit. Cette fois, il se souvient de ce qu'elle a dit. Mais il le suit comme ça, mécaniquement. Dans la clinique, tout le monde est occupé, car c'est l'heure du repas. Dans le couloir où ils vont, il n'y a personne à cette heure-là. Nicolas ouvre la porte du dépôt des médicaments. Il éclaire et entre tous les deux. Cyril a laissé son chariot dans le couloir. Il voit avec tous ses rayons des tas de médicaments. Nicolas dit « Regarde-moi tout ça !» Cyril demande « Qu'est-ce qu'il faut prendre ?» Nicolas secoue la tête et dit « Je sais pas vraiment. Faut chercher des choses qui sont des drogues. » Cyril lui dit « Mais il y a tellement de choses !» Nicolas se gratte la tête et regarde les étiquettes. Trois reconnaître certains noms qui ressemblent à des noms de drogue. Alors, il prend des cartons de ses médicaments et les donne à Cyril en lui disant « Va les mettre dans ton chariot ». C'est ce que fait Cyril. Ils continuent à prendre, plutôt au hasard, puisqu'ils ne connaissent pas vraiment les noms, parce que les noms de ce que c'est de ces produits, parce que les noms usuels des cartons ne sont pas les mêmes noms que l'on donne aux médicaments. Les noms usuels des drogues ne sont pas les mêmes noms que l'on donne aux médicaments. Ils continuent à remplir le chariot. Ils sont très pris par leur travail. Et ne font attention à rien. Pendant qu'ils sont en train de prendre, dans les rayons, les paquets de médicaments, un garde voit dans le couloir un chariot de nettoyage. Il est surpris de le trouver ici, voit la porte du dépôt des médicaments qui est ouverte. Il regarde et voit les deux jeunes gens qui sont en train de prendre des médicaments. Un garde, un grand homme fort dans les 30 ans, n'a pas l'air commode. Il leur crie « Que faites-vous là ?» Les deux jeunes gens, surpris, se retournent. Ils voient un garde, surpris et apeuré. Il laisse tomber un paquet de médicaments. Qu'ils avaient à la main. Le garde leur dit « Vous vouliez des médicaments ?» Alors, avant qu'ils n'aient pu réagir, le garde les prend au collet, les sort du local, les pousse
pose dans le local le chariot et ferme la porte à clé. Les gardes les maintient bien et leur dit « J'ai appelé la police !» Nicolas lui dit « Ne faites pas ça, collègue. Ne faites pas ça à un pote de travail !» Le garde lui dit « Certainement que oui. Cyril a très peur et se dit qu'il va aller en prison. » Passe le docteur Rambert. Il reconnaît Cyril, demande au garde « Que se passe-t-il » Le garde lui dit Je les ai surpris en train de voler des médicaments dans le local aux médicaments. Je vais prévenir la police. Rambert est surpris et se demande ce que c'est que cette histoire. Il est triste aussi parce qu'il voit que Cyril a peut-être volé. Il dit au garde, laissez tomber, je vais moi-même m'occuper de ces jeunes gens. Garde surpris et en colère. Mais monsieur, je les ai surpris en train de voler des médicaments. C'est très grave. Vous ne pouvez pas laisser faire. Il faut faire quelque chose. Rambert lui dit. Qui vous dit que je ne veux pas faire quelque chose? Mais avant, je vais entendre ces deux jeunes gens. Donc, je vous remercie pour votre vigilance. Je vous demande de continuer votre travail aussi bien. Moi, je vais m'occuper de ces deux-là. Et puis, sûrement que le jeune s'est laissé embarquer par l'autre sans vraiment savoir ce qu'il faisait. Il a des problèmes psychologiques. Il dit ça pour que Cyril puisse entendre. Rambert les mène tous les deux à son bureau. Il leur dit Je suis très triste que vous avez fait ça et très déçu. Qu'avez-vous à me dire ? Nicolas, qui malgré tout est un grand garçon, lui dit « Nous ne gagnons pas assez, monsieur. Vous comprenez, notre salaire n'est pas bien grand et c'est difficile pour vivre. J'ai voulu essayer de prendre des médicaments et de les revendre en vide, mais je vous promets que je ne commencerai plus. » Rambert lui dit, « Je comprends, mais vous avez fait ce que vous avez fait très grave. » Il réfléchit et dit, « Je ne peux faire autrement que vous renvoyer. » Nicolas lui dit suppliant, « Je vous en supplie, monsieur, que ferai-je? J'ai une femme avec moi. Si je n'ai plus de travail, nous serons à la rue. » Rambert lui dit, « Fallait y penser avant. Estiez-vous vous heureux que je n'appelle pas la police. Allez, sortez. Et je vais prévenir le service du personnel que vous ne faites plus partie d'ici. Bien entendu, je ne dirai pas ce que vous avez fait. » Nicolas Penaud sort du bureau. Cyril se dit que lui aussi va être envoyé en même temps. Il a perdu l'estime du bon docteur. Il en a très honte. Rambert le regarde tristement et lui dit « Pourquoi tu fais ça ?» Il a très peur. Cyril lui dit « Je ne sais pas. » Rambert voit qu'il est honteux, penaud. Alors il lui dit « Tu ne dois plus recommencer à voler et tu dois faire attention à tes fréquentations. Malheureusement, je ne peux pas te garder ici. » Parce que tout le monde va savoir ce que tu as fait à cause du garde et que si je fais une faveur à l'autre, vont chercher à en profiter. Nous vivons une époque très dure. Il faut que la discipline soit irréprochable. Cyril Bézériste se revoit à la rue. Il était bien ici. Rambert le voit triste, par pitié, et puis parce qu'il a un fait pour lui, lui dit « Bien, je vais voir ce que je peux faire. En attendant, tu vas rester ici. Mais seulement en attendant, parce que j'étais obligé de dire au service du personnel que tu es renvoyé. Bien, tu peux t'en aller. » continuer ton travail comme si rien n'était. Thierry lui dit « Merci, monsieur » et retourne à son travail. Rambert réfléchit et en fin de journée, il va le voir. Je vais te mener chez moi. Il soupire et dit, pourvu que je ne fasse pas de bêtises. Cyril heureux lui dit, non, surtout pas, monsieur. Merci. Donc Rambert le ramène chez lui, l'installe dans sa chambre qu'il avait. Il dit aux gens du quartier que c'est son neveu. Il essaie de l'habiller convenablement. Pendant qu'il est au travail, Cyril reste dans l'appartement. Rambert souffre de cet état de choses. Il a près de lui ce qu'il désire le plus. C'est comme s'il mourait de faim, qu'il aurait un réfrigérateur bien rempli de victuailles et qu'il ne puisse les prendre. Elisabeth, toujours efficace, aime toujours Rambert. Malheureusement, lui la traite comme un collègue. Elle est très énergique et sans état d'âme. Elle envoie les mourants au mouroir. Elle fait ça d'une façon normale. Malheureusement, les malades ont très vite compris que si on les met au service plus bas, ce que cela veut dire. Alors ils se mettent à crier. Ils ne veulent pas mourir. Elle leur dit, c'est la vie. Il leur crie, c'est la mort. Elle leur dit, c'est la même chose. À force de montrer qu'elle est énergique, elle devient dure. Mais elle fait ça pour montrer à Rambert qu'elle est très efficace. Malheureusement, elle en fait trop et devient, disons, inhumaine sans s'en rendre compte. Rambert se demande ce qu'il va faire du petit. Cyril se demande ce qu'il fait là. Il veut faire quelque chose. Rambert se dit que cette situation est sans issue. Et puis il y a le petit qui va se poser des questions. Il faut trouver quelque chose. Malheureusement, Rambert, lorsqu'il rentre le soir chez lui, est tout heureux de retrouver Cyril pour lui tout seul, qui est bien sagement assis au salon. Il le trouve touchant, gentil et beau. Il lui demande ce qu'il a fait durant la journée. Cyril lui répond, « Rien, je vous ai attendu, c'est tout. » Rambert lui dit, « Tu peux écouter de la musique ou lire, ce n'est pas interdit, tu sais. » Cyril lui dit, « Je n'en ai pas envie. » Puis, « Je me sens bien ici. » Rambert sourit et lui dit, « Bien. » Je vais préparer le repas. Un soir, Rambert, en sortant de la clinique, traverse la chaussée pour aller rejoindre sa voiture. Une voiture folle l'a renversée. Il reste inanimé sur la chaussée. Le chauffeur de la voiture qui l'a renversé a eu une crise cardiaque. L'accident a été vu par des passants qui ont prévenu les pompiers. pompiers sont arrivés. Prennent le pauvre Rambert, qui est toujours sans connaissance, et l'amènent au service des urgences dans un hôpital de Paris. En déshabillant, on a vu qu'il était directeur de la clinique du parc de Monceau. Alors, on décide de le mener à la clinique du parc. Il est mené en réanimation. Elisabeth a été prévenue par le personnel. Elle accourt, émue au service de réanimation, où essaie de soigner son ami. Rambert est gravement blessé, sans connaissance, dans le coma. Pendant ce temps, Cyril attend toujours Rambert. Le temps passe, ne vient toujours pas. Il se dit qu'il a peut-être eu du retard, qu'il a été obligé de faire un voyage. Il attend toujours, il ne sait que faire. Rambert lui interdit de sortir. Heureusement qu'il a à manger, il attend toujours, jusqu'à tard dans la nuit, et va se coucher. Le lendemain, toujours rien. Le surlendemain, toujours rien. Il commence à paniquer. Que va-t-il faire? Pourquoi l'a-t-il laissé ici? Malheureusement, les jours passent. Il a peur qu'on le surprenne chez Rambert. Que dirait-il? Il ne sait que faire de ses journées, ne touche à rien, sauf l'alimentation. Une fois, la porte a sonné. Le téléphone aussi. Cela lui fait peur, il sursaute. Un jour, il entend derrière la porte de l'appartement une voix dire « Il est peut-être arrivé quelque chose, comment on peut ouvrir ?» Une voix dit « Vous avez téléphoné à la clinique ?»« Oui, mais ne savent pas. » La standardiste et le personnel ne savent pas que leur patron est dans le coma dans la clinique, sauf le médecin de la réanimation et Elisabeth le savent. C'est Elisabeth qui veut cacher cette nouvelle. Elle veut garder pour elle Rambert. « Faut appeler la police pour qu'il ouvre l'appartement, pour savoir. » C'est la loi. S'il est mort de la peste, il faut prendre le corps et désinfecter. Si on ne fait pas ça, nous risquons d'être infectés par la peste, une voix dit. Vous avez raison. Et puis plus rien. Cyril panique, la police, lui qui n'a rien. Il ne sait pas qui il est non plus. Alors que dira-t-il à la police ? Sans réfléchir, il a ouvert la porte. Et là, il tombe sur deux femmes surprises. Ce sont des femmes petites, grosses, genre de mégères, avec des sacs à provisions. Une fois qu'il a fait le geste d'ouvrir la porte, il se dit, il a fait une grande bêtise, qu'il aurait dû s'en aller sans rien dire la nuit. Mais là, il ne peut refermer la porte. Une des dames lui demande « Qui êtes-vous ?» Il leur dit « Je suis neveu de Monsieur Rambert. » Elle lui demande « Et où est-il ? » Il panique et leur dit « Il voyage pour se reposer un peu. » L'autre femme lui demande « Pourquoi avez-vous mis si longtemps pour ouvrir ?» Il lui dit « Mon oncle m'a dit qu'il ne fallait ouvrir à personne. » Il est très gêné. L'autre, qui doit être la concierge, lui dit « Ma foi ! Vous restez ici jusqu'à son retour ?» Cyril lui dit pour ne pas être ennuyé « Oui, madame. » Et les deux femmes le laissent. Cyril se dit qu'il a fait une grande bêtise et lorsque Rambert va le savoir, il sera furieux. Mais il se sent moins clandestin malgré lui, il est soulagé.
Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Jean-Pierre Jugnet, Erebos. Production, mise en scène, Jean-Pierre Jugnet.